liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons parler des sujets d'actualité. Nous parlerons des élections, des défis de la transition de Tinzawatène, l'enjeu de Tinzawatène pour les forces armées et de sécurité. Nous allons parler aussi et de géopolitique, le contexte géopolitique et du Mali, l'Ukraine, la Russie et l'AIS, et quel avenir pour l'AIS, le front politique. On parlera justement du bilan de la transition, élection aussi, des questions que nous allons aborder avec notre invité qui a un peu disparu des plateaux. Docteur Ali Diagalibili, bonsoir.
Bonsoir à terre.
Docteur, merci de répondre à notre invitation.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Docteur, se porte bien. Ils sont nombreux qui demandent de vos nouvelles. Vous vous portez bien, docteur?
Effectivement, je me porte à merveille. Et c'est pour des raisons professionnelles ces derniers temps que je suis plus sur le terrain. Okay. Donc, mais je suis l'activité à distance.
D'accord. Oui, docteur, votre parti, le bloc pour le redressement et le développement du Mali, BRDM, et la mesure de suspension des activités politiques est levée. Est-ce que déjà, vous êtes dans la dynamique ou dans les jours à venir, est-ce que vous allez aussi faire entendre votre voix peut-être sur le bilan de la transition, par exemple? Ce soir, vous êtes là, mais est-ce que le BRDM peut peut-être faire dire sa position sur ce bilan dans les jours à venir?
Merci à Taïr, et c'est une opportunité pour nous de nous adresser au peuple malien et qui attend énormément beaucoup de choses par rapport aux différents défis de la nation. Et nous, en tant que parti politique, en tant qu'homme politique, nous avons vraiment de la vision et pour ce pays. Et nous sommes dans cette logique. Effectivement, nous venons d'une suspension qui était collective pour tous les partis politiques. Et c'était un moment difficile, mais ça nous a permis de faire l'autocritique et de voir comment relancer les débats politiques et ensuite comment être plus constructif pour les citoyens, pour la cité, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous ne devrons pas être dans les situations où on met le peuple en danger. Et c'est les leçons que nous devrons tirer, et c'est ce que nous avons fait. Et nous allons aller dans cette logique, et c'est sur les jours à venir. Et nos positions seront de plus en plus discutées à l'interne, comme c'est déjà en cours. Et nous allons prendre toutes les questions et avec l'ensemble des acteurs et pour qu'on puisse vraiment encore faire plus de propositions constructives pour ces derniers défis que nous avons.
Ok. Docteur Ali Diagalibili, la transition malienne a 4 ans. Et 4 ans déjà, pour certains, c'est beaucoup pour une transition. Et certains parlent même de mandat présidentiel. Et il y a même des acteurs du M5-RFP qui estiment qu'il fallait 3 ans pour faire les réformes et qu'il faut véritablement sortir de la transition. Vous, au niveau du BRDM, quelle est votre analyse sur la question?
Et vous savez, je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à voir la transition se prolonger pendant 4 ans. Et je pense que c'est une surprise pour tout le monde. Et même ceux qui sont aux commandes, je ne pense pas qu'ils avaient prévu comme ça. Et vous savez, en matière de gestion, il y a des situations imprévues qui surgissent. Et surtout quand on est au sommet de l'État, ce n'est pas évident de tout maîtriser, tous les paramètres. Et surtout, nous sommes dans un contexte très difficile et que certains peut-être ne comprennent pas tout de suite et qui vont comprendre peut-être des mois à venir, sinon des années à venir. Et nous sommes dans la situation où nous sommes devant notre destin et nous devrons nous assumer sur tous les plans. Et nous ne pouvons pas avoir cette autonomie sans prendre certaines décisions, avoir certaines autonomies. Et si nous voulons être nous-mêmes, il est important qu'on arrache certains principes, certains fondements pour que notre peuple puisse aller au-delà de la survie. Nous devrons vivre et nous devrons se développer, on doit se développer de nous-mêmes. Et c'est des questions existentielles en fait. Et certains pensent autrement, je le comprends. Chacun a sa position. Mais ce qu'il faut comprendre, nous sommes, ça fait des années que nous sommes dans les mêmes situations répétitives, cycliques, et qui se manifestent avec les mêmes signes, les mêmes indicateurs. Et ça veut dire quelque part, on n'arrive pas à gérer à toutes les solutions adéquates. Et nous pensons probablement que c'est la dernière chance pour nous, pour qu'on puisse pas revivre ces différentes situations cycliques. Et si nous parvenons à sortir de cette grande crise, je pense que tous les Maliens seront heureux. Parce que c'est des grands défis qui sont à gérer. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais certains ne pourront pas comprendre tout de suite. Voilà, certains ne pourront pas comprendre, mais les jours à venir, chacun verra certaines réalités.
Ok, certains pourront peut-être comprendre, chacun fera sa religion des événements. Et vous, pour vous, il faut y aller à un retour à l'ordre constitutionnel ou il faut encore donner du temps pour cette transition de faire face aux nouveaux défis?
Mais vous savez, l'ordre constitutionnel est souhaité par tout le monde. Même ceux qui sont aux affaires, je sais que même eux, ça chauffe entre leurs mains. S'ils peuvent aller plus vite, ils le feront. Mais quand on est responsable, il y a des moments où on s'assume. On s'assume, il y a des moments où on ne peut plus reculer parce que quand on s'engage, on doit aller au bout. Un leader doit s'assumer et on ne doit pas lâcher. Il y a des moments, même la démission n'est pas permise. Quand on prend certaines directions, on doit aller jusqu'au bout de l'effort. Et l'idéal, c'est d'aller, comme on dit, au retour constitutionnel. C'est ce que nous souhaitons. Un retour constitutionnel avec la participation et l'implication de tout le monde. Et nous avons la capacité, nous avons les moyens. Mais ce que c'est, il faut des préalables. Et malheureusement, nous pensons, certains pensent qu'il faut toujours aller aux élections. C'est l'idéal en matière de démocratie, c'est l'idéal par rapport au retour constitutionnel. Mais est-ce que nous avons tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour réussir une bonne élection? C'est de cela qu'il s'agit. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés et qui peuvent des freins pour peut-être une bonne organisation des élections. Pour une bonne organisation des élections. Et pour nous, ce qui a été fait, c'est à nous tous Maliens de corriger les différentes insuffisances à tous les niveaux. C'est à nous Maliens de nous montrer plus citoyens, plus actifs. C'est à nous Maliens de mettre le Mali devant dans tous les comportements dans lesquels on se retrouve. Okay. Parce qu'il est plus facile d'accuser ceux qui sont aux affaires. Mais le plus important, c'est ceux qui sont, comme on dit, qui ont la main dans le quotidien, okay. Les citoyens lambda. Et si le citoyen lambda prend conscience de son rôle participatif, actif dans la gestion de la cité, il y a beaucoup de choses, beaucoup de liens qui vont changer. Okay. Et nous avons toute cette capacité, et il faudra que nous comprenions que le Mali sera fait par nous-mêmes. Il faudra que tous les Maliens se rendent compte qu'ils ont la capacité de faire changer les lignes. On ne doit pas faire le civisme, on doit contribuer chacun à son niveau. Je prends un exemple, dans n'importe quel service aujourd'hui, tout le monde se plaint. Tout le monde dit que la situation est difficile. Tout le monde dit que sur le plan économique, il y a des marches. C'est un constat qui est amer, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais quand on regarde la production des uns et des autres, la production effective des uns et des autres dans les différents comportements, on verra le comportement individuel qui est forcément un frein. Nous avons plus de déterminants qui sont liés à nos pratiques, à nos propres comportements, et qui font qu'on est dans certaines situations difficiles. Et si nous cernons tous ces indicateurs, ces déterminants, qui nous mettent dans cette situation de crise profonde, et que chacun fasse son boulot, ce qui est normal, ce qui est redevable au niveau de sa cité, les choses vont bouger forcément. Et il faudra qu'on soit dans l'action citoyenne. Tout ce que nous posons comme acte, ceux qui sont aux affaires, qu'on parte les voir, qu'on les aide à aller dans la bonne direction. On ne doit pas être complice des situations qui ne sont pas souhaitées dans ce pays. Mais ce que nous constatons, c'est quand certains ne sont pas aux affaires, quand ils n'ont pas peut-être ce qu'ils souhaitent, ils commencent à aller à l'encontre de ce qui se passe dans ce pays. Chacun doit jouer son rôle et attendre son moment, son tour. Et en ce moment,
est-ce que vous êtes en train de dire que pour que le pays marche, on ne doit pas faire des critiques, il faut dire que tout va bien, c'est ça que vous êtes en train de dire, non?
En fait, tout ne va pas bien, c'est évident.
Okay. Mais on ne doit pas le dire.
On doit le dire, okay. Mais il y a la manière de s'exprimer. Okay. Il y a la manière d'aider, même dans la famille. On peut faire des critiques, mais il faut que ce soit des critiques constructives. Quand on fait des critiques, on ne doit pas amener les gens à la révolte. On ne doit pas mettre des gens dos à dos. On doit faire en sorte que nous soyons ensemble. Okay. Et c'est ça le plus important. C'est la manière qui est importante. Et si on fait des critiques, c'est normal. Mais la façon de s'exprimer, de donner l'information, on l'apprend. Mais quand vous dites à quelqu'un de façon la plus mauvaise, la personne y repose. Il y a des frustrations. Au lieu d'avoir le résultat, c'est le contraire. Et malheureusement, on n'a pas cette culture. On peut faire des critiques. Il y a la manière, mais la façon dont on voit certains, je pense que ça n'aide pas la nation, ça n'aide même pas les services. Et quand nous corrigeons ces différentes lacunes, et c'est sûr, on a les compétences, c'est ce que je dis. Okay. Il y a des compétences au Mali qui peuvent gérer toutes ces situations qui se posent. Il y a des gens, il faut juste qu'ils participent dans la proposition avec la manière, voir les autorités compétentes. Les personnes et les ressources, nous en avons suffisamment. Et de faire des propositions concrètes. Mais souvent, c'est l'approche qui fait défaut. Je ne doute pas des Maliens, je ne doute pas des leaders que nous avons. Je sais que c'est souvent l'approche qui nous crée ces situations difficiles. Okay. Et quand vous regardez même les différents événements cycliques qui nous amènent au changement d'Égypte, le plus souvent, c'est les mêmes leaders qui sont devant. Mais pourquoi ils ne peuvent pas juste comprendre qu'il faut mettre juste une dose pour que l'Égypte ne bascule pas. Et quand l'Égypte bascule, en ce moment, on dit ceux qui sont venus, qui sont à la base, alors que les initiateurs sont toujours là ici, et ils ne s'y reprochent rien. Et je pense qu'on doit tirer la leçon, c'est pourquoi chacun doit agir de façon positive avec l'approche, on peut manifester et en plus corriger les défauts.
Oui, vous avez des camarades qui, au niveau de la classe politique, qui est 11, leaders de partis politiques, qui sont détenus dans différentes prisons de la place. Aujourd'hui, quel est votre message? Qu'est-ce que vous faites pour leur libération?
Et par rapport à la détention, vous savez, être en prison, personne ne le souhaite. Et personne ne le souhaite. Et nous savons aussi, la prison, c'est pratiquement des moments pour des hommes forts. Et souvent, être en prison n'est pas forcément dire que vous êtes en faute. Être en prison, c'est souvent parce qu'il y a des incompréhensions. Et souvent, être en prison, c'est même une voie au succès. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et dans une situation, comme je l'ai dit, au Mali, il y en a plusieurs prisonniers, que ce soit politique ou d'autres actions. On ne souhaite pas la prison, même pour son ennemi. Mais quand cela arrive, on doit gérer avec tact. Et nous souhaiterons que tous ces détenus, tous ces prisonniers vraiment, trouvent dans la justice leur quiétude et qu'ils soient mieux traités dans ces différentes situations pour que vraiment, ils puissent donner tout ce qu'ils ont comme compétences dans ce pays. Et je l'ai toujours dit, tous les Maliens sont utiles. Tous les Maliens sont importants. Il faudra juste qu'on sache les utiliser chacun à son niveau avec ses compétences. Et c'est une situation, et je fais confiance aux autorités, je fais confiance à la justice, et je souhaiterais quand même que les situations se décantent de plus en plus, vraiment, pour apaiser les cœurs et les esprits. Okay. C'est de cela qu'il s'agit, parce qu'ensemble, on est plus fort. Okay. Ensemble, on est plus fort.
Et aujourd'hui, la candidature du président Simi Guita n'est pas à l'ordre du jour, mais au niveau de votre parti, et déjà, comment la question est débattue? Est-ce que, en cas de candidature du président, est-ce que le BRDM va suivre le colonel président ou vous allez avoir votre candidat? Ou bien la question n'est pas encore tranchée?
Et vous savez, par rapport aux élections, nous avons une vision claire. Hein. Il faut l'homme à la place qu'il faut. C'est ma conception, c'est notre conception. Et c'est pas de... Comme on dit, forcément, il faut chercher à être dans une position alors que vous n'avez pas forcément les compétences. Et quand on dit on est parti politique, c'est là pour la conquête du pouvoir. Et quand on est la conquête du pouvoir, quand vous savez que vous avez plus de capacité à aller dans une logique pour avoir le pouvoir et que vos objectifs seront atteints, il y a souvent des moments où il faut s'aligner. Et dans ce cas, dans cette situation, nous avons le devoir de réserve pour le moment. Parce que il faut observer. Nous sommes en politique et les paramètres peuvent bouger rapidement. Les indicateurs peuvent changer. Et en fonction des situations, nous avons notre position. La lecture que nous avons peut changer demain. Ouais. Donc, on ne peut pas se prononcer tout de suite. Mais nous avons des différentes hypothèses. Et avec ces hypothèses, le moment décisif, on va se prononcer.
Ok. D'accord. Mais pour vous, est-ce qu'il faut aller aux élections ou pour vous, il faut aussi donner du temps et pour... Vous avez parlé de nouveaux défis pour que la transition fasse face au nouveau défi.
Par rapport aux différents défis, c'est vrai, parce que vous savez, quand on n'a pas la main dans la pète, c'est pas facile d'avoir toutes les situations. Mmh. Nous sommes des observateurs à la limite. Okay. Et ce qui sont aux affaires, nous les faisons confiance. Mais l'idéal, c'est d'aller plus vite aux élections. Okay. L'idéal, c'est d'aller plus vite. Et pour que vraiment, on puisse avoir le retour constitutionnel et avoir l'acceptation, la crédibilité souhaitée par l'opinion interne et internationale. Mmh. Et c'est très important. Et quand on a une bonne image interne et externe, les choses vont bouger forcément. Mais ce n'est pas évident que tout le monde comprenne ce qui se passe. En matière de gestion, il y a des choses qu'on ne partage pas systématiquement. Okay. Nous avons les devoirs discrétionnels. Et en tant que responsable, ceux qui sont aux affaires, ils savent leur démarche. Okay. Ils ont leur vision, même si c'est à tout le peuple. Pourquoi ils ne vont pas aux élections tout de suite? Nous supposons que c'est des conditions techniques. Et si les conditions techniques seront réunies, je ne vois pas de raison. Et pour nous, soyons un peu patients, ne suivons pas ce qui nous pousse à aller aux élections forcément, et attendons le moment venu pour que tous les Maliens puissent être dans un climat apaisé et que les fondements, qu'on ait une élection vraiment transparente et que le méritant puisse avoir, comme on dit, le pouvoir exercé pour tous les Maliens.
Oui, mais aujourd'hui, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression que le peuple, lui, suit cette dynamique-là? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le peuple aussi avait un pouvoir légitime et qu'il s'impatiente de plus en plus?
Comme je l'ai dit, nous sommes forcément divergents. Il y a certains qui vont dire non, ça a pris trop de temps, il faut aller aux élections. Ils ont l'air logique. Okay. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Mmh. Et c'est comme ceux qui pensent qu'il faut attendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était ça la bonne solution? Je pense que c'est après qu'on va se rendre compte du choix fait. Okay. Et chacun pense être vraiment dans la bonne logique. Okay. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit fait exprès pour qu'on soit dans cette durée qui est un peu longue. Oui. Pour la transition. Parce que quand on regarde les différents contours stratégiques, aujourd'hui, dans laquelle le Mali est profondément enfoncé, la crise qui est récurrente, et je vois forcément que cette transition... Il y a l'explication par rapport à cette durée. Okay. Les questions sécuritaires, c'est une triste réalité. Et ceux qui ne sont pas dans ce domaine ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils pensent que, parce que quand on se rend compte, même certains ont pensé qu'il ne fallait pas renforcer l'armée, parce qu'on est en démocratie. Et si ça c'est des élects qui réfléchissaient comme ça, on voit un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Okay. Et tous les pays développés ont une armée bien organisée. Qui peut faire des ripostes vigoureuses par rapport à certaines situations. Et nous, pratiquement, on nous a dépouillé de tous les moyens. Même les matériels qu'on avait, en écoutant même le président défunt, le général Moussa Traoré, il disait qu'il était surpris qu'on n'a pas certains équipements. Parce que dans son passé, il avait des actifs pour le Mali. Et il était surpris. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dilapidées, il y a des choses qui ont été détournées, etc. etc. Et nous, le Mali ne méritait pas cette situation. Et nous avons un territoire assez vaste. Et nous devrons avoir le contrôle de notre territoire. Et nous devrons avoir la mainmise pour nos propres ressources. Et nous devrons nos propres capacités pour être le maître de notre propre développement. Et c'est ça le plus important. Et nous sommes sur cette bonne voie. Et certains ne comprennent pas. Et nous sommes dans la bonne voie.
D'accord. Cette logique. Oui, parlons de sécurité. Pour certains observateurs, et la situation sécuritaire, même s'il y a des avancées, il y a aussi... Elle se dégrade dans cette situation sécuritaire au Mali et puis un peu dans les pays du Sahel, au Burkina, la situation sécuritaire se dégrade face à cette menace terroriste qui de plus en plus gagne du terrain, déstabilise. Quelle doit être la réaction des États, surtout des États de l'AES?
Vous savez, en matière de sécurité, il faut toujours avoir les indicateurs, il faut suivre. Okay. Et quand nous regardons, en réalité, le Mali a fait des avancées très significatives. Okay. Et le semblant, comme on dit, retour à l'aggravation de la situation sécuritaire, je pense, n'est que l'apparence. Et qui pouvait imaginer que le Mali pourrait récupérer Kidal? Et le Mali est aujourd'hui dans cette conquête. Tenzawata est déjà une réalité, même si c'était une situation un peu difficile. Mais aujourd'hui, on est sûr que nous sommes presque dans une bonne logique. Et forcément, il y aura des ripostes. Forcément, il y aura des attaques. forcément, il y aura des pertes de part et d'autre. Et on doit le comprendre. L'ennemi aussi est là. Il veut se défendre. Et nous avons des ennemis qui sont dans d'autres logiques. Parce que cette victoire de l'AES, cette victoire malienne, n'est pas aimée, n'est pas souhaitée. Parce que vous savez, nous sommes dans une guerre géopolitique. Okay. Qu'on le dise ou pas. Et nous sommes dans une situation où il y a certains qui ne veulent pas quitter. Il y a certains qui avaient des pratiques. Même les histoires de terroristes, de djihadistes, entre guillemets, c'est souvent des choses fabriquées. Okay. C'est des montages pour des propres intérêts. Des impérialistes, c'est connu. Pour nos propres ressources. Et quand on regarde, c'est à cause de nos propres ressources qui sont là. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas des questions de religion, comme certains disent. En fait, c'est un paravent pour prendre le champ. Okay. C'est pour nos propres ressources, avoir la même issue dans nos différents pays. Et si déjà certains ont compris ça et qu'on veut finir avec cette pratique, et c'est pourquoi j'ai dit nous sommes sur la bonne voie. Et là, c'est de l'injure. Effectivement, il y a des pertes. Mais avant de parler de certains, on a fait plus d'acquis. Il y a ces derniers jours des situations qui se sont aggravées, que ce soit au Mali et que ce soit au Burkina, c'est vrai. Mais ça fait partie. Okay. Il y a des moins, il y a des hauts, il y a des bas. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est ces pays qui prennent l'ascendant par rapport aux terroristes.
D'accord. Oui, quelle peut être la position de l'Algérie et l'Algérie qui demande au Mali, par exemple, de négocier avec les groupes armés et de revenir dans l'accord d'Algérie. Quelle est cette lecture de l'Algérie pour vous, est-ce qu'elle est plausible?
Le fait de négocier, je pense, c'est au Malien de savoir, c'est à nos pays de décider la négociation. Et vous savez, en matière de ceux qui savent bien les conflits, la gestion des conflits, la négociation est toujours utile. Ça dépend. Et ça dépend de la position de qui décide. Okay. Et personne ne veut continuer à faire la guerre. Personne. Même si vous êtes puissant, au moins si on peut arrêter la situation, avoir une situation d'accalmie, ça fait de l'économie, ça fait moins de dépenses. Mais dans une situation où un pays s'immisce dans cette gestion et qui a pratiquement un rôle trop dans cette gestion depuis des années, on se pose la question. Parler de négociations aujourd'hui avec les Maliens, je pense, c'est parce que ce n'est pas évident qu'ils soient en position de force. Okay. S'ils étaient en position de force, ils n'allaient pas demander cette négociation. Et quand ils étaient en position de où ils pensaient qu'ils maîtrisaient les choses, ils pillaient nos propres ressources. Tout le monde est au courant de ça. Okay. Cette même Algérie faisait partie des gens qui pillaient nos ressources de pétrole. Et la négociation ne peut que les arranger. Ils ne sont pas auteurs de se faire déclencher une guerre. Parce que d'une manière ou d'une autre, certains sont complices. Et cette complicité, il peut pas tenir parce que c'est les dépenses. Et nous avons l'obligation de sauver notre pays, notre nation. Et les autres vont essayer d'armer, de faire n'importe quoi pour nous déstabiliser, mais ils ne pourront pas tenir aussi. Et contrairement à ce que certains pensent, qui pensent qu'on peut nous désassister, le cas c'était déjà fini. Nous avons tenu pendant 4 ans, je peux dire comme ça. Okay. Et le mal a tenu pendant 4 ans, pendant cette période de transition, ce n'est pas pour rien, parce que l'armée s'est reconstituée, l'armée a pris les choses en main, les Maliens sont décidés à finir avec le passé. Et les autres pays voisins, le Niger et le Burkina, ont suivi la même logique. Et vraiment, la situation est plus complexe pour l'ennemi. Okay. Et c'est ça, parce que déjà, 3 pays ensemble, c'est une force. D'accord. C'est une force. Et avec des partenaires stratégiques qui nous appuient.
Oui, parlons des partenaires stratégiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas craindre que la guerre russo-ukrainienne puisse avoir des répercussions un peu sur le terrain, que le Mali devienne un terrain d'expérimentation pour ces puissances-là, pour ces pays-là? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une nouvelle crise où des États s'affrontent souvent par procuration sur notre pays ou sur nos pays?
Et il faut s'attendre à tout, en fait. Okay. Tout est possible. Tout est possible parce que nous ne sommes pas dans un monde où on dit vrai. Le monde est suffisamment fou aujourd'hui. Ceux qui parlent des droits humains, ils sont les premiers à ne pas respecter les droits humains. Nous, en tant que Maliens, on a droit à la vie. On doit avoir une vie décente. Et malheureusement, on nous empêche. On nous a toujours empêchés. Et cette situation inhumaine, et qui est même gérée par certaines puissances, qui font semblant d'être nos amis, c'est un paravent. Et dans n'importe quel domaine, ils prennent l'ascendant sur nous. expressément, sciemment. Et si nous avons compris cette situation, il ne faut même pas espérer avoir quelque chose avec ces pays. Quand nous prenons la situation ukrainienne, nous savons effectivement c'est la question géopolitique. Et ce qui se passe en Ukraine, et vous allez voir les mois à venir, les années à venir, c'est l'Ukraine qui va perdre, ce n'est pas eux. Et on les pousse à faire une guerre, et malheureusement, ils peuvent même déporter la même guerre, comme c'est le cas, je peux le dire ainsi. Et quand on voit une déclaration d'un pays en disant qu'ils ont appuyé les djihadistes, ce qui a été dit par l'ambassade ukrainienne, vous savez, c'est suffisamment éloquent. Et éloquent parce qu'ils ne se sont pas souciés des questions des droits. Ils ne se sont pas souciés des Maliens. Ils ne se sont pas souciés de nous en tant que citoyens maliens. Parce que quand ils appuient des terroristes sur notre territoire, soi-disant attaquer un autre pays, une autre communauté, c'est faux. Ils ne nous ont pas respectés. Et la communauté internationale ne nous a pas respectés. Et c'est ce qu'il faut comprendre. On ne doit pas avoir froid aux yeux. Et si les Maliens restent, comme on dit, de façon silencieuse par rapport à cette situation, c'est déplorable. Tout le monde doit se lever et dire non par rapport à ce qui a été fait. Il y a certains qui ont fait des déclarations. Et c'est dommage aussi, même en Afrique, que certains restent silencieux par rapport à cette situation. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et ces puissances tournent toujours des paravents pour frapper. On a frappé la Libye ici devant tout le monde. On a frappé l'Irak devant tout le monde. La Syrie, la même chose. On doit tirer les leçons.
Ok, on doit tirer les leçons. Revenons un peu au contexte national. Les inondations, l'État du Mali, le gouvernement du Mali a décrété l'état de catastrophe nationale. Bon, on parle de 4 milliards qui seront désormais mobilisés pour répondre à cette demande sociale. Est-ce que pour vous, c'est insuffisant ou peut mieux faire?
Déjà, le fait de prendre déjà la décision de déclarer l'état de catastrophe, et c'est déjà une bonne vision du pays. Okay. Parce que les inondations sont par-ci, par-là, et tout le monde est unanime là-dessus. Mais ceux qui sont spécialistes dans le domaine de la météo aussi savent effectivement, il semblait que vraiment la quantité d'eau est importante par rapport aux années passées. Et je ne pense pas que le Mali ait connu de telles situations depuis au moins une dizaine d'années, sinon une vingtaine. Et c'est évident. Et donc, dans une telle situation, que les droits s'assument. Et c'est un rôle. Et quand on déclare une situation de catastrophe, ça dit qu'il faut mobiliser toutes les ressources. Il faut lever les fonds. Il faut aider les communautés sinistrées. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ça dit que les autorités ont pris les choses en main. Et tout le monde doit agir de façon positive et pour qu'on puisse vraiment maîtriser la situation pour que ça ne soit pas encore catastrophique.
Ok. Oui, on va justement donner la parole aux téléspectateurs. Le numéro de téléphone va s'afficher sur votre écran. Posez des questions à notre invité sur le thème du jour, sur les questions d'actualité. Donc, le numéro va s'afficher sur votre écran. Vous devez vous éloigner de votre poste, de votre télé pour qu'on puisse mieux vous entendre ici dans ce studio. En attendant, on va continuer avec notre invité sur le dialogue politique. Aujourd'hui, le dialogue entre Maliens, il y a eu la charte pour la paix et la réconciliation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Maliens sont suffisamment divisés aujourd'hui, que la politique les divise, même dans les familles? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Normalement, on est divisé.
C'est normalement.
On est divisé et ça dépend de la lecture que nous faisons. Et il y aura toujours, comme je l'ai dit, il y a toujours une divergence. Mais le plus important, malgré la divergence, on doit avoir la priorité du pays. Et c'est ce qui fait défaut chez nous. Parce que quand certains ne sont pas du même avis, ils n'ont pas l'élégance d'accepter l'autre partie. Et c'est cette élégance que nous devrons apprendre. On peut ne pas être d'accord pour certaines choses, mais si dans une famille, même si vous n'êtes pas d'accord avec le chef de famille, il y a des moments, c'est lui qui a le dernier mot. On lui laisse gérer. Si on n'arrive pas à avoir des arguments, et le moment venu, il saura. Quand on met la manière, il saura qu'il s'est trompé. Et souvent, c'est ce qui nous manque. Et on doit accompagner les différents responsables dans cette logique. Même s'il y a des insuffisances, c'est pourquoi il dit qu'on doit être plus constructif. Et certains prennent cette démarche comme si c'est une démarche de complicité. Non. On doit avoir tout le tact pour avoir la manière d'aider ceux qui sont à la gestion. Même dans un service, si vous avez un responsable, un directeur qui n'allait pas aller dans votre logique, c'est à vous de voir la manière comment le fléchir et lui montrer vraiment la bonne foi. Et si on n'a pas le tact, il va continuer à faire les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi j'ai dit, on doit faire l'effort, parce que nous, on n'a pas d'autres moyens. On ne peut que juste appuyer ceux qui sont aux affaires.
On me signale qu'il y a quelqu'un.
Allô? Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Maïga.
Oui, comment allez-vous? Ça va?
Très bien.
Oui, très bien.
Ça va, alhamdoulilah.
Oui, Al-Walid. Bonsoir.
Oui, oui.
Un grand téléspectateur de Yoliba TV News. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de la télé pour qu'on mieux vous entendre?
Non, je ne suis pas. J'ai carrément éteint.
Oui, ok. On vous entend mieux maintenant. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Bon, voilà. Pour votre invité, ce n'est pas un visage inconnu.
Oui.
Vous-même, vous avez dit qu'il a disparu et après il réapparaît. Pour des raisons professionnelles.
Oui.
Je suis d'accord avec lui.
Ok.
Sur ce point. Mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec lui.
Oui.
C'est que c'est eux qui ont amené ce Mali-là en 2020 dans la ville.
Oui.
Ils n'ont pas voulu aider les autorités.
Et c'est qui? Et c'est qui?
Les autorités de 2020, j'ai dit.
Oui.
Ils se sont réjouis de la chute du régime.
Oui.
Bon, c'est les conséquences qu'on est en train de subir.
Ok.
Pour tout homme qui est averti.
Oui.
Mais on sait que quand il y a déjà un coup d'État, les choses deviennent de plus en plus sérieuses.
Okay.
Maintenant, en ce qui concerne la marche même de la transition, les grands défis, tout ça là,
oui.
Je demande à ceux qui viennent sur le plateau de laisser l'armée de côté. Notre armée, c'est une armée commune.
Oui.
C'est une armée qui nous a défendus, même si à un moment, on disait qu'elle n'était pas bien équipée.
Okay.
Mais aujourd'hui, elle est très bien équipée. Nous nous en réjouissons.
Okay.
Celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a vécu avec ces gens-là quand l'armée supposait être faible. Alors que moi, je n'aime pas ce mot faible-là.
Okay.
Je n'aime pas là qu'on dise que notre armée était une armée faible. Et c'est vrai qu'on doit s'assumer.
Oui.
Mais il faut mettre aussi les autorités qui sont en place. Il faut leur donner de très bons conseils. Concernant par exemple les hommes politiques, les 11 hommes politiques.
Oui.
C'est un souhait pour tout homme politique quand même que ses camarades ne soient pas en prison.
Okay.
Est-ce que ouais? Donc votre invité,
oui.
Moi j'étais un peu sceptique par ce qu'il nous a donné comme réponse.
Okay.
Concernant ces gens, parce qu'on ne peut pas faire le Mali dans la division.
Okay.
On ne peut pas faire le Mali dans la division sur tous les partis politiques. Les partis politiques, c'est demain, le pouvoir c'est pour eux.
Okay.
Hein? Même si c'est un autre, même si c'est un corps habillé, même s'il est habillé, il va se déshabiller aussi.
Okay.
Parce qu'il va devenir un civil.
Okay.
Et là, il sera aidé par les partis politiques et c'est les partis politiques qui reviendront au pouvoir.
D'accord. Alors, vous avez une dernière question?
La question que je vais poser à M. Ouellet,
oui.
C'est que qu'est-ce qu'ils pensent de leur grand regroupement M5-RFC divisé en plusieurs morceaux.
Ok, c'est ça la question.
Voilà.
Merci beaucoup.
Ouais, c'est ça la question.
Merci beaucoup. Oye Al-Walid, un grand téléspectateur de Djoliba TV News, merci. On salue la famille, ancien de Cap, ancien de Cap à Bibara. Oui, un grand téléspectateur, un grand fidèle, un inconditionnel de toutes nos émissions, de toutes nos émissions. Oui, allez-y. Voilà. Vous avez été du M5, je ne le savais pas. Vous avez participé à la lutte du M5.
Tout à fait. Okay. Merci beaucoup et merci pour la contribution. Il a fait de bonnes propositions, effectivement. Et merci pour ça. Et par rapport à la division du M5, comme il a si bien dit, c'est des situations qui ne devraient pas arriver, tout simplement. Et comme je l'ai dit, nous, les Maliens, on doit être unis. On doit être plus fort. Quand on est unis, on est plus fort. Et comme je l'ai dit souvent, il manque d'élégance devant certaines situations. Et certains n'arrivent pas à accepter que leur position ne soit pas considérée. Et si leur position n'est pas considérée, ils préfèrent aller. Ils préfèrent se séparer des autres. Okay. Et malheureusement pour moi, c'est des lacunes majeures que nous avons. Mm-hmm. Et ce n'est pas seulement par rapport au M5, c'est pratiquement dans beaucoup de comportements. Okay. Et on doit avoir cette élégance d'accepter souvent d'être ensemble, même si on a une vision différente. Et pour la gestion de la nation, parce que nous sommes tous Maliens, okay. Il faudra qu'on contribue. Et souvent, certains, ils se détachent, ils contribuent même plus par rapport à la production, par rapport à ce que nous avons comme contribution pour le développement. Okay. Donc, tout simplement, pour moi, c'est une situation qui ne devrait pas arriver, mais nous l'acceptons parce que les hommes sont différents. Okay. Et mais nous espérons que chacun va faire l'effort pour que les Maliens puissent se retrouver ensemble.
Ok. Oui, là, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi le message?
Je dirais à tous les Maliens de prendre encore davantage le Mali. Okay. Je demande à tous les fils de ce pays de regarder droit par rapport à l'atteinte des objectifs. Okay. Et je demande à tous les Maliens de prendre conscience encore davantage de la crise profonde que nous avons. Et nous avons les capacités. Nous avons les ressources. Et quand on parle de développement, ce développement sera fait par les Maliens. Et c'est vrai, on peut chercher des aides, des appuis. Mais il faudra que des appuis, des aides que nous décidons et nous choisissons avec qui collaborer. La coopération dans le respect de nos principes, la collaboration dans le respect de nos stratégies, ce que nous pensons qui est bien pour nous, on va dans cette logique. Et tout ce qui peut nous aider, qui s'aligne par rapport à ce que nous faisons. Et je dirais aux Maliens, l'avenir nous appartient. Et je dis aux Maliens, ce qui s'est passé, c'est une étape pour qu'on sorte définitivement de la crise. Et nous rêvons d'un Mali meilleur dans les 5 ans, 10 ans, et pour que nous puissions vraiment être dans un pays émergent, Et quand on regarde Dubaï, quand on regarde le Japon, je ne pense pas que le Japon soit plus riche que le Mali. Okay. Mais pourquoi ils se sont développés? C'est la discipline, c'est le travail. Et je demande à tous les Maliens d'être encore plus disciplinés. Que tout le monde travaille régulièrement, même à la maison, même ceux qui pensent qu'ils sont chômeurs. Quand tout le monde travaille, on va développer ce pays et nous avons la capacité.
Quand tout le monde travaille, on va développer le pays. Ce sont là les derniers mots de notre invité, Dr Ali Dia Galiweli. Docteur, merci. Un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci.
Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h. Et le samedi à midi à 00, rendez-vous est pris à jeudi prochain et à la même heure et toujours avec le même plaisir. Au revoir.